Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, exceptionnellement, nous parlons d'un roman politique parce que parfois, ces ouvrages nous en disent plus sur une nation et son histoire que bien des essais. C'est le cas de l'excellent roman « Ceux dont on ne redoute rien » de Mathieu Thomas, avec qui l'on discute de Louis-Joseph Papineau, de sa non-rencontre avec Alexis de Tocqueville, des rébellions de 1837, mais aussi de la crise étudiante de 2012. Mais d'abord, revenons au présent. C'était jour de discours d'ouverture aujourd'hui à Québec et on l'analyse avec Rémi Nadeau.
Cube Radio. Les rencontres de l'air.
Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
La rencontre Nadeau-Robitaille.
Et bonjour Rémi Nadeau.
Bonjour Antoine.
Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal et le Journal. Et c'est une grosse journée aujourd'hui au Parlement puisqu'il y a eu discours d'ouverture. Il y a eu beaucoup de choses dans ce discours d'ouverture de François Legault. Hein. Il y a eu énormément de choses.
Énormément.
Mais peut-être pas énormément de détails sur certains trucs très... cruciaux.
Oui, donc c'est comme un avant-goût de ce que la CAQ nous proposera en vue du prochain rendez-vous électoral et ça, en même temps, ça donne un peu le coup d'envoi à l'année électorale parce qu'il reste un an. En octobre 2022, c'est le rendez-vous avec les électeurs. Alors, François Legault est allé de vastes énoncés sur des engagements. C'est comme un avant-goût du programme électoral de la CAQ et ça donne le coup d'envoi à l'année électorale parce que vraiment, François Legault est allé de ses priorités, des axes d'intervention. On parle de chantiers dans certains cas qui sont assez ambitieux, mais en même temps, le diable est dans les détails et on n'a pas de détails maintenant. C'est comme un peu... le début d'un striptease, si on veut, parce qu'on s'attend évidemment à voir des morceaux tomber par la suite au cours des prochaines semaines. Le premier étant normalement le plan pour la création de 37 000 places dans les garderies qui devraient arriver rapidement. Sur le
ton... Mais 37 000 places, en combien de temps? Moi, j'avais discuté avec des gens à l'interne qui parlaient de 5 ans. Ben, d'autres, on sait que François Legault voudrait que ça se fasse en 3 ans.
Exact.
Mais... c'est pas avant le prochain rendez-vous électoral qui est dans 11 mois.
Non, sauf que la CAQ pourra dire qu'elle a fixé un échéancier et qu'il y a une date prévue pour la livraison de chacune de ces places-là.
Ouais.
On s'entend que les partis d'opposition pourront toujours dire que c'est soit mal fignolé ou que c'est bon, etc. Mais au moins, la CAQ veut aller avec ça. Et sur le ton, peut-être avant de continuer avec les éléments,
ouais.
En 2018, M. Legault avait insisté beaucoup sur être proche des Québécois, avait insisté sur l'humilité et il avait dit que le principal adversaire du Québec, c'était la peur de secouer, je dirais peut-être, certaines vieilles habitudes. Alors là, il l'a dit, avec tout ce qui est arrivé pendant la pandémie, on n'a pas eu le choix, donc la peur est partie.
C'est ça.
Et maintenant, il disait que l'adversaire, c'était un peu la possibilité de tomber dans l'immobilisme et que c'est ça qu'il fallait contrer. Donc, les principaux axes étaient vraiment la santé, l'économie verte, je dirais, et sinon, la pénurie de main-d'œuvre avec tout ce que ça implique. Ça, ce sont comme des axes assez importants et la fierté toujours via la cohésion sociale. Là, M. Legault a insisté là-dessus cette fois-ci parce que, dit-il, c'est ce qui a permis au Québec de sortir de façon quand même correcte de la pandémie. C'est le fait qu'on avait une bonne cohésion sociale au Québec. Alors, pour ce qui est de la santé, les éléments les plus importants, déjà, nous, le journal, on avait présenté le fait que le gouvernement voulait créer une agence publique pour se débarrasser de la dépendance aux agences de placement privées. Donc, c'est comme prendre « je contribue » et le rendre permanent avec une banque de candidats qui peuvent donner un coup de main aux besoins dans les établissements de santé. Sinon, ce qui est comme plus, je dirais, nouveau dans les éléments qui ont été présentés en santé, c'est qu'il a parlé d'une vaste décentralisation. Alors là, ça veut dire complètement le contraire de ce que Gaétan Barrette a fait sous les libéraux.
Qu'est-ce que ça veut dire exactement? La recréation de régies régionales ou on a tellement fusionné de choses dans le passé, aboli des structures depuis Jean Rochon, c'est drôle parce que... Ben, c'est pas drôle, c'est jamais drôle, mais il est décédé aujourd'hui.
Oui, oui.
Donc, l'ancien ministre de la Santé, donc qui avait... créé la décentralisation des années 90.
Et ce qui m'étonne, c'est que M. Dubé, a déjà dit, il me semble l'avoir, qu'il l'a dit publiquement, en tout cas, il l'a dit à moi dans une conversation à bâton rompu, assurément, ouais. qu'il ne voulait pas se lancer dans une réforme de structure. Donc là, quand on parle de décentralisation...
Je dirais même plus, c'était dans le premier discours d'ouverture.
Ah, c'est même possible, ouais, effectivement.
Ah oui, c'était parce écrit que... noir sur blanc. Il dit... je vais le retrouver, hein, parce que ça vaut la peine. Il disait, la ministre de la Santé et son équipe vont éviter les changements de structure, les bouleversements inutiles, les grandes promesses. Il disait ça en 2018.
Ben, tu vois.
En novembre 2018.
Alors, donc, je m'interroge là-dessus. De quelle façon on va faire une vaste opération de décentralisation? Monsieur Dubé déjà a fait en sorte qu'il y ait un patron maintenant dans chaque établissement, comme les CHSLD. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été changées. Et je sais que M. Dubé insiste sur l'informatisation du réseau de la santé. M. Legault en a parlé brièvement, la transformation numérique. Et donc, ça, c'est pour les éléments en santé.
Hey, la transformation numérique, c'était là aussi. Hein? Il nous annonçait une véritable révolution numérique gouvernementale qui va générer des économies substantielles. il y a de la suite dans les idées. Oui. Ça, c'est certain. Quand on lit le discours de 2018, il y a beaucoup de redites.
Oui, ben, tu vois, là, effectivement, parce que c'est comme si c'était des éléments repris.
Mais il y a des nouveautés, Rémi.
Oui.
La fin de l'urgence sanitaire,
oui,
ça a été annoncé.
La fin de l'urgence sanitaire qu'on place dans le temps au début 2022, après la vaccination des 5 à 11 ans. Alors, normalement, on s'attend à ce que bientôt ce soit homologué, le vaccin pour les enfants de niveau primaire, et qu'ils soient vaccinés idéalement, donc pas mal avant les fêtes, et qu'au début 2022, on pourrait dire, ça y est, on lève l'urgence sanitaire. Monsieur Legault, c'est ce qu'il a signifié. Ceci étant... Il faut quand même dire aux auditeurs, ça ne veut pas dire fin de l'urgence sanitaire, ça ne veut pas dire fin des mesures sanitaires,
non.
Des consignes sanitaires, ça ne veut pas dire que le port du masque dans les lieux publics est soudainement plus obligatoire. Mais M. Legault avait déjà lié la vaccination des enfants au fait qu'on pourrait éventuellement, après ça, enlever le masque dans les lieux publics. Mais donc, ça s'en vient. Et il a profité du discours pour l'annoncer. C'était attendu quand même depuis longtemps. On se demande jusqu'à quand que le gouvernement gouvernera sous les décrets comme ça et sous l'urgence sanitaire.
Nouveauté en matière de santé. Il a ouvert la porte à une sorte d'assurance autonomie. On sait que c'était... pour rompre avec la logique des crédits d'impôt en soins à domicile. Il nous dit qu'il va mandater la commissaire au bien-être pour se pencher sur la meilleure manière de favoriser la soins à domicile pour les personnes âgées qui veulent rester à domicile. Ça, c'est du nouveau.
Oui. Et Régent Hébert, sous le Parti québécois, avait proposé une caisse d'assurance autonomie. Ce qui était l'élément difficile à comprendre, c'est comment on pouvait arriver à le financer lorsque ça a été présenté par les péquistes. Mais là, on a comme l'impression que peut-être que le gouvernement de la CAQ veut un peu revenir à ça. On demande en tout cas des recommandations à ce sujet-là de la commissaire, comme tu l'as indiqué.
Menace aux médecins, on l'avait remarqué, toi et moi, parce qu'on écoute attentivement la période de questions. Mais François Legault, il y a deux semaines, si je ne m'abuse, avait dit les médecins, là, s'ils prennent pas plus de patients en charge, ben on va leur faire une loi spéciale.
Exact, c'est ça. Il a dit on va arriver avec un projet de loi là-dessus. Donc là, il a remis une couche de pression sur les médecins en leur disant j'aime toujours mieux une entente négociée, mais s'il le faut, on va le faire. Donc, effectivement, là-dessus, il a tapé sur le clou.
Autre nouveauté, la fin des hydrocarbures au Québec
et
un nouveau ministère de la cybersécurité.
Oui, ministère de la cybersécurité. Donc ça veut dire, dans le fond, Éric Kerr monte en grade parce que c'est un ministre délégué. Il a une toute petite équipe et honnêtement, il fallait qu'on arrive à ça, parce que quand tu regardes l'ampleur de ce qu'il a sur le dos ou sur sa table à dessin, là, on lui donne beaucoup de responsabilités. On veut qu'il arrive à créer une espèce de carte numérique unique pour chaque Québécois.
Citoyenneté numérique.
Exact, qui pourront après ça transiger avec le gouvernement de façon beaucoup plus simple. Et juste ça, c'est énorme. Et évidemment, M. Kerr sera impliqué aussi dans la transformation de l'informatisation en santé. Pour ne nommer que cet autre chantier-là. Donc, c'est normal qu'on lui donne plus de moyens, donc il aurait un véritable ministère. Et pour ce qui est de l'économie verte,
l'interdiction ou la fin de l'exploitation des hydrocarbures.
Je m'attendais à ce que M. Legault se garde un peu cette munition-là pour faire une annonce à la COP26, parce que il a vraiment parlé d'un pôle de transport électrique, d'un pôle mondial aussi pour la filière batterie et aussi pour l'hydrogène vert. Alors, j'ai l'impression qu'il a abattu tout de suite ses cartes, qu'il aurait pu peut-être annoncer davantage à Glasgow bientôt. Mais bon, alors, je pense que ça lui permet d'aller au-devant.
Oui,
et d'éviter...
les critiques, parce que là, déjà, les critiques sont sur l'environnement. Québec solidaire dit tout à l'heure, là, Gabriel Nadeau-Dubois disait qu'il avait carrément oublié l'environnement.
Oui, parce que M. Nadeau-Dubois disait d'ailleurs que c'est pas normal que ça ait pris, je sais pas combien de minutes, je pense qu'il a dit 50 minutes.
Ah oui, il a calculé, oui.
Bon, mais l'important, c'est ce qu'il a dit, je pense, au-delà du moment où il l'a dit. Et M. Legault, donc, montre qu'il n'arrivera pas à la COP26 les mains vides.
Moi, j'ai été bien intrigué par la politique nationale d'architecture. Ça m'érotise, je dois le dire. Puis, comme la transformation du cours éthique et culture religieuse en un cours de culture et citoyenneté québécoise. Ça, c'est formidable.
On sait que le cours de CR doit être transformé.
Oui.
Ça sera annoncé relativement bientôt. Là, on sait que c'est sur la table de Jean-François Roberge cet automne. Et M. Legault a insisté sur le fait que, justement, on a parlé tout à l'heure de cohésion sociale. Et il a dit, ça commence par la culture, justement,
oui,
québécoise.
Ça nous a
aidé. Renseigné.
Dans la pandémie, c'était bien de lier les deux. Tu veux, peut-être un petit clin d'œil rigolo à la fin. Le lieutenant-gouverneur, parfois, nous fait rire.
Oui, le lieutenant-gouverneur Michel Doyon, qui a prononcé quelques mots avant le discours inaugural du premier ministre et donc après avoir fait sa propre allocution, il s'est levé. Il est passé devant la chef de l'opposition officielle comme si rien n'était et est allé donner du coude. Normalement, on donne la main, mais là, il a donné du coude à Gabriel Nadeau-Dubois. Et c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui, à travers son masque, lui a fait signe, il faudrait saluer aussi Mme Anglade. Alors, c'est un moment un peu gênant pour Dominique Anglade. Le lieutenant-gouverneur est allé par la suite lui donner du coude à elle aussi et à Joël Arsenault.
Qui l'a appelé d'ailleurs Dominique Anglade.
Ben là, écoute.
Oui. Le lieutenant et gouverneur étaient peut-être un peu nerveux aujourd'hui.
Et c'est drôle parce qu'on n'arrête pas de dire que cette session-ci, c'est comme si Gabriel Nadeau-Dubois se plaçait en opposition.
Oui.
Officiel, mais là...
On dirait que ça venait accréditer tout ça.
Ouais.
Merci beaucoup, Rémi. On s'en reparle demain.
À demain.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
Comme souvent à là-haut sur la colline, les mardis, on parle d'actualité du passé, mais contrairement à notre habitude, on le fait aujourd'hui à partir d'un roman, Ceux dont on ne redoute rien, dont l'auteur est au bout du fil. Bonjour Mathieu Thomas.
Bonjour.
Mathieu Thomas, vous êtes bibliothécaire dans une université montréalaise et maintenant, je pense qu'on peut le dire, romancier, car c'est vraiment c'est un bon roman que vous avez fait, bien fait, très, très perspicace. Et il porte sur quoi? Sur la non-rencontre de deux grands personnages. Alexis de Tocqueville, l'auteur de La démocratie en Amérique, qui ça donne à être un de mes héros, et Louis-Joseph Papineau, figure centrale de la rébellion des Patriotes de 1837-1838. Je résume rapidement, M. Thomas, avant que je vous pose la première question. Donc, on est en 1831. Tocqueville et son compagnon de voyage, Gustave de Beaumont, sillonnent les États-Unis, font un court séjour au Bas-Canada. Ils y rencontrent des personnages politiques importants de l'époque, comme Nielsen, mais pas Papineau. Il n'est même pas question de Papineau dans les pages que Tocqueville consacre au Bas-Canada. C'est une intrigue. Vous partez de cette intrigue-là, de cette non-rencontre-là. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure?
Ben, je vous dirais que c'est déjà la lecture des textes de Papineau, de Tocqueville quand il est venu ici. Ce texte-là n'a pas été publié avant très, très, très longtemps, mais je veux dire, il avait quand même été fasciné par la survie de ce peuple-là français sur les berges du Saint-Laurent, etc. Et puis, quand je lisais un peu sur ça, après ça, j'ai lu quelques textes là-dessus, ben souvent, ça revenait de la part des historiens, ils disaient, mais mon Dieu, ça aurait donc été intéressant qu'ils se rencontrent,
oui.
Quelle rencontre ça aurait été? Donc, c'est ça le départ, c'est ça le point de départ, c'est de me dire, comment ça se fait que, non seulement ils ne rencontrent pas, ce qui est quand même possible, là, mais qu'ils n'en parlent pas du tout dans leurs textes qu'ils ont écrits pendant leur passage ici, aucune mention de Papineau. Je trouvais ça quand même bizarre.
À partir de ça, vous inventez toute une histoire et c'est vraiment fascinant. Et ça part d'une autre intrigue qui, là, se joue en 2011-2012. On n'est plus au 19e siècle. C'est celle d'Édouard, qui est traducteur, souverainiste un peu désabusé, qui devient obsédé par cette non-rencontre, un peu, j'imagine que c'est votre obsession, au point de se lancer dans une enquête éperdue, hein, il faut le dire. Édouard, c'est un peu vous?
Ben, dans ce sens-là, oui, c'est que c'est bon, je pense que je peux le dire sans vendre trop de punch, là. Édouard découvre des documents qui lui laissent croire que ben, cette rencontre-là, peut-être qu'elle a eu lieu. Et là, en effet, le mot obsédé est très bien choisi. Il devient un peu fou de tout ça. Il dit, mais mon Dieu, mais si c'est arrivé, mais comment ça se fait que personne ne le sait? Donc, c'est un mystère historique. Alors, il commence à faire des recherches et ça le mène, bon, évidemment, à lire énormément de documents. Il se rend compte qu'il y a plein d'incohérences par rapport à cette histoire-là. Comment ça se fait qu'on ne l'a pas su? Et après ça, ben, ça le mène sur les routes du Québec. Il va à différents endroits au Québec pour explorer cette intrigue.
On veut pas. C'est ce qui est difficile de vous interviewer, c'est qu'on veut pas non plus vendre la mèche.
Exact.
Parce que c'est un roman. C'est un roman enquête, puis on veut pas dire comment ça se termine. Mais on sait qu'Édouard trouve ce document qui lui donne l'indice que oui, il y a peut-être eu rencontre Tocqueville-Papineau. Et pourquoi Tocqueville et Papineau, cette rencontre aurait été cachée?
Voilà, ben donc c'est ça, c'est que déjà ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand on lit les textes de Tocqueville et Beaumont quand ils sont venus ici, on se rend compte que ils font pas juste pas parler de Papineau, ils disent ce peuple-là, les Canadiens, donc les Québécois d'aujourd'hui pourraient prendre sa destinée en main, tout ça, mais il leur faudrait un chef, puis je le vois nulle part. Ils disent ça.
Oui.
Donc, c'est presque une espèce d'allusion détournée à Papineau sans le mentionner, en disant, ben, c'est ça, il n'y a pas de chef pour les mener, ces Canadiens-là, pour les réveiller de leur torpeur. Alors, on peut bien comprendre que, Édouard, ayant l'indice que cette rencontre-là a peut-être eu lieu, il se dit, mais comment ça se fait qu'ils ont écrit ça? C'est dans le mystérieux. Est-ce qu'ils sont rencontrés puis on a voulu le cacher? Ou est-ce qu'ils ne sont pas rencontrés puis c'est un canular? Donc, il commence à fouiller un peu tout ça. Et puis, Édouard, donc un peu comme moi ou comme bien des Québécois qui seraient tombés sur un document comme ça, se dit, mais mon Dieu, mais si c'était arrivé, ça, si c'était vraiment rencontré, ben, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une rencontre qui aurait pu changer le cours de l'histoire du Québec?
Ah oui, c'est ça. Donc, comment ça aurait pu changer l'histoire du Québec? Comment, d'abord, comment on peut le dire sans trop vendre la mèche?
Oui, alors ce qu'on peut peut-être dire, ce que je peux...
Je vous laisse le dire, moi j'ai tellement peur là, que je suis sur mes gardes, je fais bien attention.
Ben voilà.
Je veux que les gens lisent ce livre-là, il est vraiment passionnant, puis c'est intriguant sur le plan historique.
Ce que je veux dire, c'est que ce que Édouard suppute, ou ce que Édouard imagine, ou essaie de... il trouve différents indices à différents endroits là, pour développer cette idée-là, c'est qu'il se dit, mais est-ce que dans le fond, ce qui s'est passé, est-ce que ça serait pas que Tocqueville et Beaumont auraient été envoyés ici par on ne sait qui pour explorer la possibilité d'une aide de la France aux Canadiens français dans ce qu'eux, ils appelaient la reconquête de leur nationalité. Donc, autrement dit, 6 ans avant les rébellions, est-ce que les Français auraient eu un rôle qu'on a la misère à définir pour encourager les Canadiens français dans les voies de la rébellion. Et donc là, à partir de là, c'est plus juste Tocqueville et Beaumont qui viennent se promener au Québec là, puis qui n'ont pas vu Papineau puis sont partis après, puis c'est tout. C'est comme, OK, on est passé à côté d'une espèce de complot qui aurait pu avoir des conséquences énormes d'un point de vue politique.
Oui.
Et si la France avait appuyé les Canadiens dans leur rébellion, ben mon Dieu, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Et ce qui est intéressant...
Puis un demi-siècle plus tôt, aux États-Unis, il faut le rappeler, puis peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas, mais la France, quand elle est intervenue dans la Révolution américaine, a été déterminante. Elle a changé le cours de l'histoire, l'intervention de Lafayette et tout ça. C'est ce qu'on lit un peu partout. Ça a été vraiment déterminant.
Absolument. Et puis d'ailleurs, ça, je fais une référence à ça dans le roman. Les Français ont plus dépensé d'argent à aider les Américains à devenir indépendants qu'à conserver la Nouvelle-France.
Ah oui.
10-15 ans plus tôt. Donc, je veux dire, l'ironie est quand même énorme.
C'est fou.
Et en plus, bon, puis évidemment, comme on dit en québécois, tout est dans tout, c'est que Lafayette, qui était donc le fameux général là, qui est maintenant adulé aux États-Unis parce qu'il a vraiment aidé à la naissance de leur pays, ben Lafayette, sa petite-fille, donc la fille de son fils, ben, elle s'est mariée avec Gustave de Beaumont, qui est l'ami de Tocqueville.
Oui, et qui a sillonné justement les États-Unis avec Tocqueville, oui.
Voilà, donc il y a comme des raccords dans l'histoire qui sont parfois un peu singuliers, mais qui m'ont beaucoup amusé et dont je me suis servi pour la rédaction du livre.
Le livre, moi j'avais lu Tocqueville au Bas-Canada, les textes rassemblés par Jacques Vallée. Vous êtes basé sur le livre de Corbeau qui reprend à peu près les mêmes textes. Tocqueville au Bas-Canada, est-ce que lire ça, ça a été douloureux pour vous? Pour moi, ça l'a été, c'est pour ça que je dis ça. Quand il parle d'un peuple conquis, quand il va au tribunal, ça m'a marqué beaucoup aussi. Il dit c'est les meilleurs avocats, mais il s'exprime assez mal en français. Et là, c'est là qu'il prend conscience à quel point être conquis, c'est terrible. Et même que Camille Lorrain, lorsqu'il a fait adopter la loi 101, dans son discours, il cite ces passages-là de Tocqueville. Donc, oui, la question, c'est est-ce que ça a été douloureux pour vous lire Tocqueville au Bas-Canada?
Ben, c'est le fameux passage où il dit il n'y a pas de plus grand malheur pour un peuple que d'être conquis.
Exact.
Et ça, oui, en effet, ce passage-là, il est très, très, très douloureux, comme vous dites, et très touchant. Moi, quand j'ai lu ces textes-là, donc de Tocqueville et un petit peu de Beaumont, là, dans l'édition de Rémi Paco Corbeau, oui, il y a des moments il y a des passages qui sont durs à lire, qui sont un petit peu tristes, parce qu'on se dit, mais mon Dieu, les choses n'ont pas tant changé que ça. Finalement, il y a des choses qui changent pas près de 2 siècles plus tard.
Oui.
Donc ça, c'est un peu déprimant. Mais il y a des observations, parce que il faut quand même se dire, ils ont juste passé 10 jours ici, là.
Oui.
Ils sont passés en coup de vent, là. Ils n'ont vraiment pas... c'est une espèce de petit détour dans leur voyage américain, ça, ce passage ici, dans le Bas-Canada. Mais dans leurs écrits, on sent quand même une espèce de sympathie, une espèce d'amour. Et c'est comme si ils devaient passer plusieurs mois aux États-Unis là, pour dans leurs explorations, puis ils arrivent ici, puis ils sont comme, mon Dieu, mais la France existe encore. Puis c'est la vieille France, la France d'avant la Révolution, la France avec des curés et tout ça, avec un peuple, oui, conquis, oui, soumis aux Anglais, mais quand même relativement heureux. Et je veux dire, ça les touche vraiment. Et puis ces pages-là, quand on les lit, on ne peut pas s'empêcher d'être un petit peu ému. Moi, ça m'a un petit peu ému. Je trouvais ça vraiment une espèce de déclaration d'amour là, de Tocqueville aux Canadiens de l'époque. Oui.
Est-ce que le général de Gaulle n'a pas lu ces pages-là sur son bateau en s'en venant en 1967?
Oui, il les a lues. Puis bon, de Gaulle était très intéressé par l'histoire du Canada, du Québec. Et bon, on sait que c'était un très, très, très grand lecteur. Et puis lui aussi, un peu comme ce que suggère Tocqueville, il disait que l'abandon du Canada aux Anglais sous Louis XV, c'est une honte. C'est une véritable honte. Et puis, on a une dette envers eux. Et puis, son Vive le Québec libre, c'est en quelque part, ce ne sont que des paroles, mais c'est comme un peu s'il avait payé la dette de Louis XV. Et donc, Tocqueville le sent aussi. Il dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait? On les a complètement oubliés, mais ils sont encore là. Puis, ils gardent vivant le souvenir de la France en Amérique du Nord. Et ça les touche beaucoup.
C'est un roman, votre roman aussi. C'est une chronique, je dirais, de la fin du régime Charest. Avec la souveraineté vacillante, ça, c'est un autre aspect du roman, parce qu'il y a l'aspect enquête, il y a l'aspect, je dirais, sociologique, là, la chronique des années Charest aussi.
Oui, parce que, bon, Édouard, à l'époque où donc, il fait sa découverte, et puis il commence à chercher un peu sur tout ça, on est à la fin 2011, début 2012, donc ça, c'est l'époque de la création de la CAQ, de la création d'Option nationale. Donc, c'est déjà ces deux partis qui sont, on pourrait dire, des excroissances du PQ, hein, c'est-à-dire ces deux anciens du PQ qui ont lancé ces partis-là. Et c'est l'époque, après ça, qui donc les problèmes, les questions de corruption des libéraux avec Jean Charest, puis ce qui a mené après ça au printemps érable. Donc, les pages de 2011, c'est pas seulement Édouard là, qui vit sur Tocqueville, c'est Édouard qui est un peu embarqué, parfois malgré lui, dans l'espèce de tourbillon là, des manifestations et tout ça. Lui, il est à Montréal, donc même à un moment donné, il se retrouve à participer à une grosse manif. Là. Donc oui, on est vraiment dans cette espèce de d'ambiance, la d'effervescence qu'il y avait à l'époque, toute proportion gardée, quand même, c'est quand même une, bon, c'est pas une rébellion, là, c'est pas une rébellion des patriotes, mais je veux dire, c'est quand même dans les années récentes du Québec, c'est un moment où vraiment ça brassait, là. Il y avait tout ce qui se passait politiquement au Québec, et puis, et c'est ce qui n'a pas toujours été le cas, disons, depuis 20-30 ans, là.
Ça ferait un bon film, votre livre. Avez-vous pensé à ça, l'écrivain? Avez-vous pensé en fonction d'un... mettons, d'un scénario?
Ben, je vous dirais que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de romanciers qui vont vous dire qu'ils veulent pas que leur roman soit adapté en film. Moi, ça serait un rêve, là. Évidemment, j'aimerais beaucoup ça. Mais je vous dirais que j'étais plus dans l'humilité. Hein. Moi, c'est mon premier roman. J'avais jamais rien écrit avant d'aussi long, à part mon mémoire de maîtrise, là.
Oui.
Donc, j'avais jamais écrit de fiction. Donc, moi, dans mon esprit...
Il partait sur quoi, votre mémoire de maîtrise?
C'était sur... Moi, j'ai fait une maîtrise en sciences politiques. C'était sur la... Je comparais les politiques étrangères du Japon et de l'Allemagne depuis la fin de la guerre froide.
Oh, OK. On est ailleurs.
Oui, on est ailleurs. On est vraiment ailleurs. C'est la politique internationale. Ouais. Et puis, donc, j'avais rien écrit, donc, comme je vous dis, de si long depuis. Et puis, donc, dans mon esprit, c'était... Je veux d'abord me faire publier. On va commencer par se faire publier. Mais c'est sûr que dans mes rêves, dans mes fantasmes les plus fous, un film, ça serait merveilleux. Ça serait merveilleux. Ça, c'est sûr.
Mais c'est un livre de gens qui aiment les livres, pour personnes aussi qui aiment les livres. Hein?
Oui, ben écoutez, ça c'est une dimension du roman. Je pense que j'ai pas pu m'empêcher, parce que moi, bon, je suis bibliothécaire, j'aime les livres, j'aime la lecture, et c'est un roman qui aborde beaucoup ces questions-là, que ce soit par... bon, il y a des personnages qui sont en traduction, il y en a un qui est typographe, on parle beaucoup de journaux, on parle d'édition, il y a un personnage qui rencontre Gustave de Beaumont. Gustave de Beaumont, il est en train de travailler sur la correspondance de Tocqueville. Il l'a mis en forme pour qu'elle soit publiée en forme de livre.
Il est complètement fauché.
Il n'y a pas un
petit boulot. Il vit dans un château qui est un peu décati. Puis... Ça, c'est formidable. Ça. On le découvre, de Beaumont. Est-ce que je viens de vendre la mèche? Oh, non, je pense pas.
Ben, de Beaumont, on peut dire qu'on apprend à le connaître un petit peu, puis Beaumont, c'est un peu l'oublié là-dedans, parce que souvent, on dit, Tocqueville est venu aux États-Unis, il a écrit de la démocratie en Amérique, et puis bon, il est venu au Québec, au Bas-Canada à l'époque, mais il est venu avec Beaumont, puis Beaumont, ben c'est un peu un oublié de l'histoire, c'est comme si, c'est l'ami de Tocqueville, c'est comme le sidekick de Tocqueville, c'est beaucoup plus que ça, c'est quelqu'un qui vaut la peine d'être découvert, c'est quelqu'un qui a écrit d'ailleurs un roman à l'époque qui avait été très remarqué sur la condition des Noirs aux États-Unis, avant même l'accord de l'oncle Tom, là, The Stole, le roman très, très, très connu américain, avant que ça paraisse, Beaumont avait fait apparaître un roman sur le sort des Noirs aux États-Unis, même après que l'esclavage soit aboli. Donc, c'est quelqu'un d'intéressant, quand même, ce Gustave de Beaumont. Alors, j'ai voulu un petit peu aussi le ramener dans la mémoire, là, de rappeler... à notre souvenir, c'est quelque chose d'intéressant.
Et ce qui est formidable, justement, en terminant, c'est que vous avez visité plusieurs des lieux dont vous parlez dans votre roman, dont le château de Beaumont, et vous avez même rencontré l'actuel propriétaire.
Ben, en fait, non, c'est pas le propriétaire. Celui que j'ai rencontré, c'est l'actuel marquis de Beaumont.
Oui.
Il habite dans une ville voisine. Ça, c'est en Touraine, là, donc c'est près de Tours entre Tours et Le Mans. Et puis, mais le château ne lui appartient plus.
Ah non, OK.
Le château à l'époque.
J'avais mal compris, pardon.
Je suis allé. Oui, le château, quand je suis allé là-bas, le château appartenait à un pop artist très connu, qui s'appelle Oldenburg, un Américain, qui faisait des grandes sculptures géantes, là, avec c'est un peu particulier, son art. Et puis, donc, c'était lui propriétaire. Et le château était en vente. Mais moi, quand j'ai rencontré le marquis de Beaumont, dans cette autre petite ville juste à côté, ben, écoutez, il était super content, il était très accueillant. très sympathique d'ailleurs, un peu, est-ce que c'est un trait de caractère de la famille Blumont. Et il m'a accueilli dans son château et on a parlé de Gustave et on a parlé de sa famille. Et c'était vraiment, écoutez, je veux dire, c'était exceptionnel. Là. Moi, j'allais là en simple touriste qui fait un peu d'exploration, puis je me retrouve attablé à côté d'un marquis qui me sert du vin, puis qui me parle de sa famille, puis qui est très content. Alors, puis d'ailleurs, il me disait, petite anecdote, il me dit, mais vous savez, Tocqueville, dans ce voyage, c'était l'assistant de Beaumont.
Ah bon? OK.
Parce que Tocqueville était un peu plus jeune, et puis ils n'étaient pas très connus encore tous les deux à l'époque, et puis c'est Beaumont qui était un peu plus vieux, un peu plus expérimenté, un peu plus... un peu moins timide, on va dire, que Tocqueville. C'est comme un peu lui qui a organisé un peu tout ce voyage. Bon, Tocqueville est devenu un grand penseur, je veux dire.
Il y a eu une postérité beaucoup plus importante, hein? Oui, c'est ça.
Ben oui, ses œuvres ont eu une très, très, très grande influence. Beaumont, on l'a un peu oublié, mais je veux dire, dans ce voyage-là, sans Beaumont, Tocqueville n'aurait jamais pu faire ce voyage-là, ça, c'est certain.
Merci infiniment pour cette conversation sur ce roman passionnant. Et j'en rappelle le titre, « Ceux dont on ne redoute rien », c'est chez Québec Amérique. Et c'est à lire, absolument.
Je vous remercie beaucoup, M. Robitaille.
Et c'est tout pour La Houe sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.